la source, messieurs, dames, si vous voulez voir. Vous faites le tour, là, je vais vous montrer. Parce que là, ce n'est que le trop-plein. Passez par là. Approchez-vous, messieurs, dames. Alors, voyez, c'est là qu'elle arrive, la source. Elle vient de cette direction-là. Là, il n'y a que quelques centimètres de canalisation et c'est de profondeur qu'elle vient. Mais on ne sait pas de quelle profondeur. Même on ne creuse pas là pour faire des recherches de peur de la dévier ou de la perdre. Alors on pense qu'elle vient de très profond et que c'est volcanique. Et là, elle sort à 82 degrés et elle fait 320 litres à la minute comme débit. 5000 hectolitres en 24 heures et elle coule sans arrêt. Depuis des siècles comme ça, depuis les Romains, c'est connu. C'est le plus curieux, elle n'a jamais varié de quantité ni de degré, même en plein hiver. C'est unique en Europe, cette eau, elle coule sans arrêt.
En réalité, les Romains n'ont vraisemblablement pas exploité le site de Schoetzweg, et la source du Pas, aussi belle soit-elle, n'est pas unique. Par contre, l'origine de l'eau est bien en profondeur, sans pour autant que les relations avec le volcanisme soient étroites. Dans la profonde vallée du Remontalou, Schoetzweg, littéralement eau chaude en langue occitane, s'est construite non seulement autour du Par, mais dans une région où jaillissent une trentaine de sources d'eau thermale. La plupart d'entre elles sont localisées dans une aire d'émergence, allongée du nord-ouest au sud-est, selon la direction principale des fractures du socle métamorphique de la région. La circulation des eaux est donc guidée par certaines des cassures, et pour comprendre le cycle, il est tout d'abord nécessaire de connaître la géométrie et l'évolution du réseau régional des fractures. La carte tectonique précise du site exige le relevé systématique des failles à la faveur des divers affleurements, lits de rivière, falaises ou carrières. Mais ces lieux de bonnes observations sont rares dans ce pays de forêts et de pâturages. Et l'extrapolation devient trop grande. Des méthodes susceptibles de révéler les discontinuités non apparentes doivent alors suppléer au manque d'informations. Ainsi, l'analyse des documents relevés par des avions équipés de radars latéraux permet d'identifier les fractures répétitives. Équipée cette fois de capteurs infrarouges, la télédétection aérienne met en évidence les différences de réponse thermique entre les matériaux broyés et les matériaux sains des terrains avoisinants. Enfin, des précisions sont apportées par la magnétotellurique qui identifie les perturbations de circulation des ondes électromagnétiques induites par les discontinuités du sous-sol. La carte de synthèse fait apparaître un réseau dense de failles répétées selon six directions de fracturation. La plupart de ces failles sont héritées de la tectonique hercynienne. L'analyse microtectonique des traces de déformation, et entre autres celle des stries sur les miroirs de failles, révèle que les mouvements sont complexes. Dans la région, les deux premières phases tectoniques sont compressives et plissent la série métamorphique. Il leur succède un troisième épisode en extension qui autorise l'injection de filons de microgranit. Les décrochements horizontaux caractérisent la dernière phase au primaire. Ainsi, chacun des événements tectoniques laisse sa signature sous forme de fractures, souvent empruntées par des venues magmatiques. La première d'entre elles, à 330 millions d'années, est la lame de 6 km d'épaisseur du granit de la Margeride à grands cristaux d'orthose. Il lui est associé un chevelu minéralisé en arsenic, autrefois exploité dans la mine de Sansard, à 1 km au sud de Schoetzweg. Les montées de filons et de petits plutons de microgranit, celui du Koufour par exemple, suivent à 270 millions d'années. Enfin, vers 200 millions d'années, les failles sont cicatrisées à basse température par d'épais filons de quartz stérile. Les aiguilles de Turland balafrent le paysage. Au tertiaire s'épanchent des coulées de lave, comme celle de basanite alcaline qui domine Chaudzeg. Enfin, de nos jours, des cristallisations blanchâtres de sulfate d'alumine se forment sur les parois rocheuses traversées par des failles. Parmi toutes ces failles, seules celles qui ont une direction nord-ouest-sud-est ont joué en extension au tertiaire quaternaire, permettant la sortie de lave, puis autorisant le fonctionnement du système géothermal de Chaudzeg. Les résurgences qui jaillissent à 80 degrés Celsius sont d'anciennes eaux de surface, infiltrées à la faveur d'une multitude de petites fractures. Dans leur parcours en profondeur, les eaux conservent le souvenir géochimique de leur origine. La quantité relative d'isotopes 16 et 18 de leur oxygène montre qu'il s'agit d'eau tombée à l'altitude moyenne de 1200 mètres, celle des plateaux de la Margeride à l'est de Chaudzeg. Si l'eau a une origine superficielle, à l'inverse, son gaz carbonique monte des couches profondes de l'écorce terrestre et du manteau. Ce gaz provient de l'exercice permanent du métamorphisme en profondeur. Il diffuse par les micro-discontinuités des roches, mais il est aussi contenu dans les minéraux en de petites inclusions que l'on voit ici éclater sur la platine chauffante d'un microscope. Le lieu d'équilibre entre le flux descendant des eaux et le flux ascendant du gaz carbonique correspond au réservoir profond du champ géothermique. Les eaux acquièrent ici leur minéralisation et leur plus haute température. Chargées de gaz carbonique, elles attaquent différentiellement les minéraux constitutifs des roches fortement fracturées. La température à ce niveau est de l'ordre de 200 degrés. Elle est calculée grâce à la quantité de silice que contient l'eau. Le coefficient de partage du silicium entre les eaux et le quartz des roches du réservoir est en fonction de la température. Des données analogues sont fournies par les teneurs en sodium, potassium, calcium ou lithium libérées dans les eaux par les feldspaths. La minéralisation presque exclusivement bicarbonate et sodique est peu importante, de l'ordre de 1 g par litre, ce qui indique un temps de résidence relativement court dans le réservoir. Cette température de 200 degrés supposerait, en tenant compte d'un gradient géothermique normal de 30 degrés par kilomètre, un réservoir situé à 6 km de profondeur. Mais celle-ci est certainement surestimée, car Chaudzeg se place dans une des zones françaises où le flux géothermique est élevé. Une coupe géophysique actuelle fait même apparaître une remontée du manteau qui déplace l'isotherme 1200 degrés Celsius de 100 à 50 km de profondeur. Ce diapirisme mantélique entraîne un bombement de la surface, compensé par des fractures en extension et des effondrements. Des grandes profondeurs, l'eau remonte en empruntant des cassures largement ouvertes. De ce fait, la vitesse d'ascension est rapide, de l'ordre de plusieurs centaines de mètres à l'heure, tandis qu'il lui a fallu plusieurs milliers d'années pour descendre jusqu'au réservoir d'équilibre. L'eau chaude monte en raison de sa faible densité. Le gaz carbonique s'en échappe en bulles de plus en plus nombreuses, car la quantité de gaz dissous diminue avec la pression. Ainsi, l'ensemble de l'eau et des bulles de gaz s'allègent de plus en plus et l'ascension s'accélère. Le passage du gaz carbonique dissous en gaz libre consomme des calories, ce qui provoque un refroidissement au fur et à mesure de l'ascension. L'eau ne conserve plus que 80 des 200 degrés acquis dans le réservoir. Le tronc ascendant unique se divise en deux troncs et chacun d'eux se subdivise ensuite en autant de branches que de sources tout au même chimisme, mais aux températures à la sortie variant entre 80 et 40 degrés. Certaines des remontées se mêlent en effet aux eaux froides de la nappe phréatique de subsurface. Le tritium qu'elles contiennent le prouve. La source du Pas reste la plus chaude parce qu'elle échappe au mélange. Au Griffon, les bulles de gaz carbonique crèvent et dans les eaux désormais appauvries en CO2, les carbonates précipitent en travertin et colmatent les conduites. Les filets d'eau chaude se repèrent facilement aux colorations vives des colonies de bactéries et d'algues filamenteuses, bleues puis rouges, qui y vivent. L'ensemble du champ géothermique de Schoedzegg délivre chaque jour 800 000 litres d'eau thermominérale. La source du Par, la plus chaude de France, en débite à elle seule la moitié. Autrefois, elle servait à enlever les soies des cochons abattus, à les parer en langue occitane. La géothermie, une énergie nouvelle d'avenir, est connue et utilisée depuis longtemps à Schoedzegg. Dès le Xe siècle, l'eau chaude est distribuée au rez-de-chaussée des maisons, dont le chauffage est ainsi assuré naturellement. Une centaine de demeures profitent encore de cette manne. Cette distribution collective est complétée par une dizaine de fontaines publiques. Les tuyaux et les rigoles où circulait autrefois l'eau chaude étaient creusés dans des troncs de sapin. Quant au vieux lavoir, il est l'héritier des anciens moulins où on blanchissait la laine. Si Schoedzegg a toujours fait le meilleur usage de la chaleur de ses eaux thermales, elle a su aussi en utiliser les propriétés curatives. Les bains chauds sont une pratique au moins millénaire. Les installations archaïques ont fait place à un établissement moderne qui offre une large gamme de traitements thérapeutiques. Aujourd'hui, Schoedzegg propose des cures recherchées et utilise plus sciemment l'énergie thermique. L'eau minérale, susceptible de déposer des carbonates, ne circule plus dans les tuyauteries. Sa chaleur est transmise par l'intermédiaire d'échangeurs à une eau non minérale. Celle-ci circule dans un serpentin plongé dans l'eau thermale et est envoyée dans les conduites de chauffage central. L'échangeur est simple et de petite taille pour les maisons particulières ou plus grand et complexe pour le chauffage de bâtiments importants, collèges ou piscines. L'étape suivante est celle des pompes à chaleur. L'eau thermale est actuellement utilisée pour la production d'électricité au moyen d'une microcentrale géothermique qui convertit l'énergie thermique en énergie électrique. Dans un échangeur de chaleur, l'eau thermale suit un serpentin autour duquel circule à contre-courant et en circuit fermé un fluide caloporteur de type Fréon, le Flugène 114. Ce fluide, à faible température de vaporisation, est appelé secondaire par opposition au fluide primaire qu'est l'eau thermale. Les calories fournies par l'eau chaude provoquent la vaporisation du fluide secondaire dont la détente entraîne une turbine liée à un alternateur, lui-même producteur d'électricité. Le fluide volatile est ensuite refroidi dans un condenseur, alimenté par l'eau froide du remontaloup. Le fréon, redevenu liquide, termine son cycle en repassant dans l'échangeur où il peut à nouveau être vaporisé. Les microcentrales géothermiques permettent de valoriser pour la production électrique des ressources à moyenne température, entre 90 et 150 degrés, jusqu'à présent peu exploité. La microcentrale de Schoedzegg est un prototype de puissance relativement modeste qui a permis de tester la qualité technique du procédé. Symbole mobilisateur, le site de Schoedzegg a servi de laboratoire naturel au développement des idées et des méthodes en matière de géothermie.